Évidemment, vous avez fait beaucoup de scènes avant d'arriver avec ce disque-là. On vous a entendu chanter plein de chansons sur la scène. Est-ce que le choix se fait naturellement pour les chansons d'un premier album ou c'est plus compliqué qu'on peut penser?
Ouh, c'est quand même complexe. Ben oui, c'est un gros processus d'entonnoir. On est arrivé dans les premiers meetings de brainstorm avec, écoute, 50 chansons chaque à peu près.
Mm-hmm.
C'est un énorme répertoire. Puis après ça, bon, on commence à élaguer ça, en faisant, est-ce que cette chanson-là fit avec l'autre? C'est quoi le concept qui a l'air de se dégager de l'album? Faut que tout ça soit conséquent, que ça soit logique. Puis après ça, ben, on se bat pour nos coups de cœur respectifs, bien entendu. Puis finalement, en cours de processus, ben la longue liste finit par raccourcir. Puis finalement, ça en est dégagé un thème complètement francophone. 50% Québec, 50% francophonie européenne. Puis, voilà, ça c'est limité à 13.
Mais c'est drôle quand même parce que le processus est différent pour l'album que pour le spectacle. Parce que pour le spectacle, ça prend une raison dans la trame narrative du show. Parce que ce qu'on fait sur scène, pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment un show continu. On a l'impression que c'est une seule pièce en deux parties, bien sûr, avec l'entracte. Mais donc deux pièces qui jouent, comment je pourrais dire ça, qui se lie ensemble avec une trame narrative que Serge Postigo a installée dans notre spectacle parce qu'il est le metteur en scène. Et sur le CD, ben là, on peut un peu plus se laisser aller, y aller avec des coups de cœur qui sont pas nécessairement, qui a pas de trame nécessaire narrative là-dedans sur l'album. Donc, ça nous permet d'aller un petit peu plus dans toutes les directions.
Mais il fallait quand même qu'il y ait un concept derrière ce disque-là. Ouais, ben alors que maintenant, on consomme plus la musique de cette façon-là, on y va à la pièce, on y va dans le désordre.
Ouais, c'est ça, il a fallu faire un équilibre. On savait que souvent les gens vont aller chercher un single, vont chercher cette version-là de cette chanson-là. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'on a choisi Papa Outé comme single, parce qu'on sait que c'est une tune populaire que tout le monde connaît, puis en même temps, on voulait la transformer à cappella. Mais la raison première, on voulait montrer aux gens que c'est possible de faire de la cappella en français. C'est très populaire sur YouTube ou sur les internets de ce monde, de partager des vidéos à cappella de chansons de gros tubes américains ou de chansons anglophones, mais de la chanson francophone, il y en a très, très, très peu. Puis, de la chanson québécoise, il y en a à peu près pas à cappella. Donc, on s'est dit, tout à l'heure, on a écouté Journée d'Amérique. Nous, on trouve que c'est une chanson qui se prête hyper bien à la cappella, qui peut être reprise un peu, revampée un peu là, au goût du jour, avec du gros beatbox, tout ça, puis ça marche très bien. En tout cas, à notre goût, ça marche très bien. Donc, c'était un peu le but de l'album, je pense, de montrer que c'est possible de le faire en français, en québécois aussi. Et puis, ça met la table pour la suite des choses avec les prochains albums.
Est-ce que c'est un défi quand on est les premiers à faire ça? On parlait du défi du studio tout à l'heure, parce que les studios sont pas faits pour ça, les gars de son connaissent pas nécessairement cet univers-là, mais ben, c'est un public à aller chercher, tout est nouveau là-dedans.
Oui, effectivement, c'était un défi aussi pour nous de trouver notre façon de fonctionner, parce qu'on avait beaucoup d'expérience de scène, mais moins d'expérience sur album. Donc, ça a été un processus, apprendre comment on travaillait ensemble, tous les quatre, et oui, effectivement, ça a pas été nécessairement facile de trouver des collaborateurs, mais parce que la cappella, surtout ce qui s'est fait au Québec, a eu souvent une espèce d'influence très jazz qu'on a moins, nous, de notre côté. Je pense à la bande magnétique, par exemple, ou des fois des ensembles qui étaient plus classiques. On a d'excellents chanteurs au Québec. Mais c'est ça, sur l'aspect plus a cappella pop, avec des influences comme des groupes comme Pentatonix ou des émissions, des films même maintenant qui sortent sur la cappella, ça, il y en avait très peu. Et on s'est tourné vers des gens qui avaient une expérience au niveau du son pop et qui avaient vraiment le goût de se lancer dans je dirais, l'étude de la cappella, qui ont donc lu énormément là-dessus puis qui ont décidé d'embarquer dans ce projet-là de la cappella.
Ceux qui ont vu votre spectacle savent que vers la fin, vous faites chacun un numéro solo où vous allez dans vos influences, dans ce que vous aimez. Donc ça devient un défi quand on met tout ça ensemble et qu'on dit on fait un disque, parce que c'est quatre influences complètement différentes.
Oui, effectivement, mais quand même, comme on disait tout à l'heure, on a apporté chacun nos coups de cœur, une longue liste de chansons avec un fichier Excel. On est très, on est un peu geek là-dedans, avec un code de couleur. Si je tiens absolument qu'elle soit sur l'album, je le sens en vert, et sinon en rouge, en jaune. Et puis, on a recoupé tous les coups de cœur communs à tout le monde. Ça a donné des résultats un peu loufoques comme la tribu de Dana. Ouais. C'est un peu l'hymne national de la génération Y à laquelle on appartient. Et puis, même si, parfois, même quand on a proposé ça chez Analecta, et puis, des gens un peu plus vieux que nous qui ont fait, mais c'est quoi cette affaire? là, je connais pas ça. Puis là, on, on a fait, écoute, là, c'est ton ordinateur, tu vas voir. Puis la personne faisait, ben non, j'ai jamais entendu ça. Mais là, il y a des gens de notre âge dans le bureau qui se levaient comme si on jouait leur hymne national. Puis qui disaient, ah oui, faites ça. Donc, ça nous a confirmé qu'il y a une tranche d'âge qui apprécie énormément cette chanson-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça, que, tranquillement, pas vite, on a monté la liste des chansons.
Puis on voulait, aussi que les chansons puissent rejoindre un peu tout le monde, mais en même temps, un peu à l'image de notre spectacle, faire découvrir des choses à des gens qui ne l'auraient pas nécessairement écouté autrement. Donc, l'album avait aussi cet angle-là.
Est-ce qu'il y a des chansons qui ne se font pas à cappella? Simplement, est-ce qu'il y a des chansons que vous avez essayé, que vous vouliez faire et que ça n'a juste pas marché?
On pense que non. C'est vrai que on n'a pas encore fait beaucoup de musique métal. Peut-être un jour.
Ouais. Mais surtout sur album, tout se peut. Parce que là, on peut prendre le temps de mettre des effets spéciaux, de tricher un peu. Sur scène, il y a des affaires qu'on... Ben, en fait, non. Je pense pas qu'il y a vraiment de limite. Faut tout le temps prendre le bon angle, puis on trouve la bonne façon de faire la chanson. Mais il y a des chansons qu'on s'est dit, ah, ce serait le fun de la faire, mais pas sur un album. Ça, c'est une chanson qui va mieux sur scène, parce que c'est un punch humoristique ou un truc comme ça. Donc, tout se fait. Faut juste les placer au bon endroit avec le bon angle.
Même la musique instrumentale, on a fait un quatuor de cordes de Vivaldi dans l'ancien spectacle aussi, fait que ça, tout se fait.
Ouais. Est-ce que c'est un test pour l'amitié, faire un disque ensemble?
Non.
On s'est jamais chicané.
Hein?
Oui, c'est un test. Et je suis vraiment content qu'on l'ait passé, ce test-là, parce que c'est effectivement difficile. C'est des horaires qui n'ont pas de bon sens. Écoute, il y a des journées où on passait 23 heures en studio
sans
sur
arrêter,
24.
Oh, presque.
Donc non, sans arrêt. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de travailler. Des fois, il y a moins un qui va aller se reposer un petit peu. Ah, oui. Mais 23 heures dans une journée, il y en a eu des journées comme ça.
On avait le studio dans lequel on travaillait était à Longueuil, puis on habitait tous à Montréal, ben, presque tous à Montréal. Et puis on a tous pogné le trafic de l'île de Montréal pour revenir à la maison, mais le trafic du matin. Il y avait un sentiment d'injustice. Là, je viens de finir ma journée le soir, mais je pogne le trafic du matin parce qu'il est rendu 6 heures du matin.
C'est
puis le lendemain,
moi.
3 heures plus tard, on recommençait en studio. Donc on avait des heures de fou avec des échéanciers qu'on s'était fixés qu'il fallait respecter, mais on est tellement perfectionniste qu'à un moment donné, on n'arrête pas de travailler.
On cherche d'ailleurs un commanditaire d'hélicoptère si jamais
il y en a. Si jamais Sorel, une compagnie, allez-y, appelez-nous.
Est-ce que c'était plus long que vous pensiez faire un disque?
Oui. Non, définitivement.
Parce qu'on parle de 800 heures de studio, c'est ce que j'ai lu.
C'est plus 800 heures en tout, de travail sur l'album, mais à travers ça, c'est sûr que bien sûr, on continue de tourner le spectacle aussi. Donc ça faisait, comme je disais, des horaires qui avaient pas de bon sens. Mais oui, ça a été un très très grand défi. Chapeau à tous ceux qui l'ont fait avant nous, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de respect pour ceux qui ont passé par là avant nous. C'est pas aussi simple que rentrer, faire un spectacle d'un bout à l'autre, l'indiquer et c'est fini. C'est du travail de minutie. Et sur certains arrangements, comme disait François, il y a des arrangements qui nécessitent plus de 4 voix. Et sur certains arrangements, on a 16 voix. Donc, chaque voix de quartz est quadruplée. On est quatre parties à apprendre. Donc, non seulement il faut les pratiquer, mais il faut les avoir parfaitement à chaque fois aussi pour pouvoir les garder sur l'album. Donc, ça fait des arrangements qui sont complètement éclatés. Autant on a ces arrangements-là sur l'album qu'on a des arrangements à 4 voix aussi. Je pense à Gilles Vigneault qui est sur l'album ou l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Mais oui, ça a été un énorme défi.
Est-ce qu'on arrive à l'écouter après? Ou il faut prendre un recul?
Ah ben ça, là-dessus, le groupe, on n'est pas unanime. C'est très drôle. Il y a des membres du groupe qui l'écoutent presque sur repeat depuis qu'il est disponible. D'autres qui ont préféré tel un vin, le laisser mûrir un peu.
On a un gros fan dans le groupe.
En fait, je sais pas si c'est que je suis fan ou si c'est pour me rassurer que j'écoute souvent l'album en me disant non, ça va. Tu sais, c'est le premier album. On a, il y a un syndrome assez particulier de comment je dirais, une petite crainte de se montrer au grand jour avec son premier album. Donc, je me suis retrouvé à l'écouter souvent en voiture aussi. Je voulais avoir le sentiment d'écouter cet album-là d'un bout à l'autre en voiture parce que j'écoute énormément de musique. Je suis un grand consommateur de musique, même de CD encore. Peut-être mes anciens, mon ancienne vie de disquaire qui me garde comme ça branché sur les nouveaux albums. Mais oui, encore aujourd'hui, une fois de temps en temps, là, moins, là, mais quand on venait juste de le sortir, là, je l'ai écouté pas mal de fois.
Puis il y a quelque chose de vraiment étrange avec la mémoire. Ben, tu sais, quand on est dans un projet comme ça qui consomme, qui nous consume, devrais-je dire, tellement, on n'a aucun recul sur le produit, sur le projet, tu sais. Puis finalement, tu sais, après autant de travail, on se dit, OK, parfait, là cet album-là correspond à nos attentes, on le lâche dans l'univers. Puis là, il n'est plus entre nos mains, tu sais. Mais une fois de temps en temps, il y a le doute qui vient. Est-ce que c'est parce que j'avais tellement le nez dedans que est-ce que j'ai mal gaugé puis finalement là tu réécoutes l'album puis tu fais OK, il est bon. OK, c'est un bon test, okay.
Un spectacle, vous avez la réaction directe du public. Oui. Un disque, c'est ça le défi.
Oui.
Vous l'avez pas.
C'est vraiment la bonne façon de l'exprimer. Je pense que c'est pour ça qu'on a comme ce besoin-là, une fois de temps en temps, de s'asseoir dans le banc du public pour le réécouter puis se dire c'est correct.
C'était assez angoissant ça, de pas avoir de réaction directe. Ben, en fait, on avait la réaction du réalisateur, donc ça pouvait nous conforter des fois quand on avait une idée. Des fois, il nous disait les gars, je pense que ça serait mieux de cette façon-là, le beatbox à tel endroit, on l'enlève là, on le remet là. Mais moi, la réaction qui m'a le plus conforté, c'est les anciens membres du groupe, parce qu'il y a eu un changement de personnel en 15 ans. Et puis c'est un ancien membre du groupe, David, notre ancien baryton, qui m'a appelé pour me dire hey, c'est vraiment bon les gars. Puis évidemment, il est très conscient du travail qu'on a mis dedans parce que lui aussi écrivait les arrangements avant, donc il entend tout ça, puis bon, il sait ce que ça implique. Donc d'avoir ces commentaires très très positifs me fait ok, c'est bon, il doit être bon cet album-là. Mais moi, je suis parmi de ceux qui l'ont écouté juste une fois.
Ouais,
l'album
aussi.
Je l'ai écouté juste une fois avant qu'il sorte.
Moi aussi.
Quand je l'ai reçu physiquement, j'ai regardé la pochette, j'étais content, mais je l'ai mis sur une tablette. Je suis pas encore prêt.
Ouais, moi donc,
un moment donné, je vais l'écouter.
Ouais, puis mais nos fans ou les gens qui nous suivent sur sur les réseaux sociaux sont vraiment généreux depuis la sortie de l'album. Ils nous écrivent, ils nous donnent leur coup de cœur, ils nous disent à quoi ça leur fait penser, les souvenirs qui vont avec les pièces qu'on a choisies. Puis ça, c'est très réconfortant pour nous aussi de voir qu'on a pu atteindre notre cible, dans le fond, parce que c'est nos coups de cœur, mais de voir que ça plaît aux gens aussi, c'est très réconfortant.
Êtes-vous allé le voir en magasin?
Oui, pas encore. Cherchambault.
Ah oui, t'es allé?
Oui, on est Cherchambouillé, là. Et puis, on était sold out à Trois-Rivières aussi, il n'y en avait plus.
Que... Oui. HMV aussi.
Non, HMV qu'au Archambault, je pense, à Trois-Rivières. Ah, ouais. On a réussi à être sold out.
Mais à Montréal, il en reste beaucoup. Je ne sais pas, Sorel.
Et à Sorel aussi. Sorel aussi, il y en a ici.
Sorel, il y en a avant d'ici, là.
Il y a une boîte ici au restaurant, si jamais.
Est-ce que les artistes vous ont commenté, vous ont dit leur approbation? Avez-vous eu du feedback? Évidemment, il est récent, le disque, donc ils n'ont peut-être pas entendu.
Pas encore, mais c'est dans nos plans d'envoyer ça à chaque artiste. Ouais. Moi, en tout cas, je veux avoir la réaction. Il y en a là-dedans qu'on connaît, je pense aux Sœurs Boulay. On a fait un spectacle avec eux, le spectacle de la Saint-Jean à Montréal l'été dernier. Et ça a été un coup de cœur, un coup de foudre de part et d'autre. Donc, d'avoir leur réaction, j'ai vraiment hâte de voir quand ils vont l'entendre. J'aimerais ça être là quand ils vont l'entendre live.
Mais
c'est ça, c'est dans nos plans de l'envoyer. Mais non, effectivement, il n'y a pas eu, je sais pas.
Il y a Richard Séguin qui a entendu notre arrangement. C'est-à-dire le premier arrangement de Journée d'Amérique. On y avait fait devant lui à l'époque, une couple d'années, puis il était tout sourire. Donc je me dis, ça doit être le fun pour eux d'entendre leur chanson a cappella, retransformée, recréée. Donc,
j'imagine.
J'ai confiance.
Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la problématique de faire un album comme ça? Parce qu'il y a une question de droit, j'imagine. Il y a des chansons peut-être pour lesquelles ça peut pas marcher parce qu'il y a
on était chanceux d'avoir Analecta qui nous a dit on va s'en occuper, on va... Oui, effectivement, il y a une permission à demander, mais les artistes sont souvent très généreux, surtout ici, effectivement. Et donc, on a eu que très, 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 très peu de refus. Et ceux qui ont accepté, justement, je pense l'ont fait avec à cœur ouvert.